8. 7 ou 8 kilomètres à peine les séparaient du village déserté, et ils y arrivèrent moins d'une heure après être descendus du bac. Roland mit encore moins de temps à leur expliquer ce qu'était un coup de givre.
Jadis, ils frappaient une ou deux fois l'an la grande forêt au nord de la Nouvelle-Canaan, mais ils n'arrivaient jamais jusqu'à Gilead. Ils se dissipaient dans l'air bien avant. Mais je me rappelle avoir vu des charrettes où s'empilaient les corps gelés sur la route de Gilead. Des fermiers et leurs familles, je suppose. J'ignore où étaient passés leurs trokens, leurs bafous bafouilleux, si vous préférez. Peut-être avaient-ils péri d'une quelconque maladie. Quoi qu'il en soit, ces malheureux n'avaient plus rien pour les prévenir. Car le coup de givre frappe soudainement, vous savez. On commence par transpirer. Le temps se réchauffe en prélude à ce genre de tempête, puis le givre fond sur vous comme une meute de loups sur un troupeau d'agneaux. Pour vous alerter, il n'y a que les craquements des arbres sous l'emprise du froid. Un fracas assourdi, comme des grenades explosant sous la terre. Le bruit que produit le bois en se contractant, je suppose. Et lorsqu'on l'entend, il est déjà trop tard, sauf si on a eu le temps de se mettre à l'abri.
Et il fait si froid que ça ?
Interrogea Eddie.
La température peut descendre en moins d'une heure de 40 limbits en dessous du point de congélation,
répondit Roland d'un air sombre. Les mares gèlent en un clin d'œil, dans un bruit de vitres qui se fracasse. Les oiseaux se transforment en statuettes de glace et tombent du ciel. L'herbe devient vert.
Tu exagères, dit Susanna. Ce n'est pas possible.
Oh que si. Mais il n'y a pas que le froid qu'il faut craindre, car le vent qui se lève est un véritable ouragan. Il brise les arbres gelés comme des fétus de paille. Et ces tempêtes peuvent parcourir jusqu'à 300 roues avant de s'envoler vers les cieux aussi soudainement qu'elles en sont descendues.
Et comment se fait-il que les bafouilleux les sentent venir ?
Demanda Jake. Roland se contenta de secouer la tête. Le pourquoi et le comment des choses ne l'avaient jamais tellement intéressé. 9. Ils virent un fragment d'écriteau sur la route. Eddie le ramassa et il lut un mot sans doute incomplet et à moitié effacé.
Voilà qui résume parfaitement l'entre-deux-mondes, déclara-t-il. Mystérieux et hilarant à la fois.
Il se tourna vers les autres, le morceau de bois plaqué contre son torse. On y lisait en grosses lettres malhabiles Gok.
Un gok, c'est un puits très profond, dit Roland. La loi autorise tout voyageur à s'y désaltérer.
Bienvenue à Gok,
dit Eddie en jetant le bout de bois dans les buissons bordant la route.
C'est parfait. Pour ma voiture, je veux un autocollant qui proclame « Je me suis planqué à Gok pendant le coup de givre ».
Susanna éclata de rire. Jake ne broncha pas. Il désigna Otey qui tournait sur lui-même à toute vitesse, comme s'il chassait sa queue.
« On ferait mieux de ne pas traîner, » dit le garçon.
10. La forêt se retira peu à peu et la piste s'élargit pour devenir ce qui avait jadis été la grand-rue d'un village. Ce dernier n'était qu'un triste champ de ruines qui s'étendait sur 400 ou 500 mètres. Il y avait eu là des maisons et quelques magasins, mais il était désormais impossible de les distinguer les uns des autres. Il n'en restait plus que des carcasses branlantes dont les fenêtres sans vitres rappelaient des orbites vides. La seule exception se trouvait à l'extrémité sud du village. La grand-rue envahie de mauvaises herbes s'y divisait en deux pour contourner un bâtiment de pierre grise aux allures de blocos. Il était entouré d'une masse compacte de buissons et en partie dissimulé par de jeunes conifères qui avaient poussé sans restriction depuis que Gok avait été abandonné par ses habitants. Leurs racines s'insinuaient déjà dans les fondations du grand hall. Au bout d'un certain temps, elles auraient raison du bâtiment, et le temps n'était pas une denrée rare dans l'entre-deux-mondes.
Il avait raison à propos du bois de chauffe, dit Eddie.
Il ramassa une planche délavée par les intempéries et la posa sur les accoudoirs du fauteuil roulant, comme pour offrir à Susanna une tablette de fortune.
On risque pas d'en manquer,
ajouta-t-il en jetant un œil sur l'animal familier de Jake qui s'était remis à tourner en rond.
À condition d'avoir le temps d'en ramasser, bien sûr.
Nous nous y emploierons dès que nous aurons vérifié que personne ne nous disputera l'usage de ce bâtiment,
dit Roland. Dépêchons-nous.
11. Le grand hall de Gok était glacial. Et si les oiseaux avaient envahi son premier étage, des New-Yorkais les auraient appelés hirondelles, mais Roland les connaissait sous le nom de rouillots. Le reste des lieux était cependant à leur disposition. Une fois sous un toit, Otay sembla guéri de la manie qui le poussait à tourner sur lui-même ou à faire face au nord-ouest, et retrouvant sa nature, il bondit sur l'escalier pour foncer vers la source des roucoulements parvenant à ses oreilles. Dès qu'il se mit à japper, les membres du tête virent les rouillots s'enfuir vers des zones moins peuplées de l'entre-deux-mondes. Sauf que, si Roland disait vrai, songea Jake, ceux qui filaient vers le fleuve Wye ne tarderaient pas à être transformés en sorbets. Le rez-de-chaussée consistait en une seule et vaste salle. Tables et bancs étaient ramenés contre les murs. Roland, Teddy et Jake les transportèrent jusqu'aux fenêtres, heureusement petites, afin de les condamner. Ils sortirent pour barricader de l'extérieur celle qui faisait face au nord-ouest, afin que le vent venu de cette direction ne puisse pas s'y engouffrer. Pendant ce temps, Susanna propulsa son fauteuil dans la cheminée, si haute qu'elle n'eut même pas besoin d'incliner la tête. Elle leva les yeux, empoigna l'anneau rouillé du clapet et le tira. On entendit un grincement infernal. Puis le silence. Et un épais nuage de suie tomba en averse sur elle. Sa réaction fut instantanée et pittoresque, du pur d'État Walker.
« Oh, putain de bordel de merde à queue !» s'écria-t-elle. « Espèce de connasse suceuse de bite, égade les salopies que t'as faites !»
Elle ressortit de la cheminée en toussant et en agitant les mains devant elle. Les roues de son fauteuil laissèrent des traces dans la suie. Un monceau de poussière noire maculait son giron. Elle l'enchassa d'une série de revers de main, comme si elle giflait un ennemi invisible.
« Salopie de cheminée de merde ! Cochonnerie de tunnel à poussière ! Espèce de saleté de putain de... »
Elle se retourna et vit Jack qui la fixait, les yeux écarquillés et la bouche béante. Un peu plus loin, sur l'escalier, Otay faisait à peu près la même tête.
« Pardon, mon chou, » dit Susanna. « Je me suis laissé emporter. C'est surtout contre moi-même que je suis fâchée. Les poêles et les cheminées, en principe, je connais, et j'aurais dû savoir ce qui m'attendait. »
D'une voix empreinte du plus profond respect, Jake lui déclara «
Tu connais encore plus de gros mots que mon père. J'aurais pas cru qu'on pouvait en connaître plus que lui. »
Eddie rejoignit Susanna et entreprit de lui nettoyer le visage et la gorge. Elle l'écarta d'un geste vif.
« Tu vas en mettre partout. Allons voir si on trouve ce fameux Gok. Peut-être qu'il y a encore de l'eau. »
« Il y en aura, si Dieu le veut, » dit Roland.
Elle se tourna vivement vers lui et le fixa en plissant les yeux.
« On veut faire le malin, Roland ? C'est pas une bonne idée tant que je resterai encore plus mal blanchi que d'habitude. »«
Non, Sai, loin de moi cette idée, »
répliqua-t-il en esquissant toutefois le plus infime des sourires.
« Eddie, va voir si tu trouves de l'eau pour que Susanna puisse se laver. Jake et moi allons commencer à ramasser du bois. » Nous aurons besoin de ton aide le plus tôt possible. J'espère que notre ami Bix a regagné son rivage, car le temps presse plus qu'il ne le pensait, je crois bien.
12. Le puits, le Gok, se trouvait de l'autre côté du grand hall, dans le terrain communal selon toute apparence. Cela faisait belle lurette que la corde avait disparu du treuil sous sa toiture en ruine, mais ce n'était pas trop grave. Il y avait un rouleau de corde dans leur guna.
« Le problème, » dit Eddie, « c'est de trouver un récipient pour mettre au bout. Je suppose qu'une des vieilles sacoches de Roland te ferait... »«
C'est quoi ça, mon chéri ?»
Susanna lui désigna un point à gauche du puits, au milieu des ronces et des hautes herbes.
« Je ne... »
Puis il vit. Un éclat de métal rouillé. Veillant à s'épargner des égratignures, il plongea une main parmi les ronces et, poussant un grognement, récupéra un seau tout rouillé où traînait une branche de sumac. Il était même pourvu d'une anse.
« Fais-moi voir ça ?»
demanda Susanna. Il se débarrassa de la branche morte et lui tendit le seau. Elle éprouva l'anse qui se cassa aussitôt dans un soupir poussiéreux plutôt que dans un craquement. Susanna adressa un regard penaud à Eddie et haussa les épaules.
« C'est pas grave, » dit ce dernier. « Mieux vaut que ça casse maintenant plutôt qu'au fond du puits. »
Jetant l'anse dans l'herbe, il découpa un bout de leur corde, le dépouilla d'un de ses brins pour le dégrossir et le passa dans les trous conçus pour accueillir l'anse.
« Pas mal, » commenta Susanna. « T'es plutôt débrouillard pour un cul blanc. »
Elle se pencha par-dessus la margelle du puits.
« J'aperçois de l'eau, à même pas 3 mètres. Oh, elle a l'air froide. »«
Un ramoneur, ça ne fait pas le difficile. »
Le seau plongea, refit surface et se remplit doucement. Lorsqu'il menaça de couler, Eddie le remonta. Il fuyait en plusieurs endroits tant il était rongé par la rouille, mais la quantité d'eau perdue était minime. Eddie ôta sa chemise, la trempa dans l'eau et se mit à laver les joues de Susanna.
« Oh mon Dieu !»
s'exclama-t-il.
« Mais c'est une fille !»
Elle lui prit sa chemise des mains, la rinça, l'essora et s'attaqua à ses bras.
« Au moins, j'ai réussi à ouvrir le clapet. Tu tireras un peu plus d'eau quand j'aurai enlevé le plus gros de cette saleté et une fois qu'on aura allumé un bon feu, je pourrai me laver avec de l'eau bien... »
Un fracas retentit loin au nord-ouest, puis un autre, après une brève pause. Suivit une succession de coups secs évoquant une fusillade. On aurait dit qu'une armée marchait sur eux. Ils échangèrent un regard surpris. Eddie, torse nu, agrippa les poignets du fauteuil roulant.
« On a intérêt à rentrer, je crois. »
Dans le lointain, mais de plus en plus proche, retentit le bruit d'une armée en mouvement.
« T'as raison. »
dit Susanna. 13. À leur retour, ils virent Roland et Jake regagner le grand hall au pas de course, les bras chargés de branches cassées et de planches pourries. Depuis le fleuve, de plus en plus proche, leur parvenaient des explosions sourdes et sèches, produites par les arbres qui craquaient et se contractaient sous l'effet du coup de givre. Au milieu de la grande rue, Otay tournait sur lui-même avec frénésie. Se laissant choir de son fauteuil, Susanna se reçut sur les mains et se mit à ramper vers le hall.
« Qu'est-ce que tu fabriques ?» lui lança Eddie.
« Charge le bois sur le fauteuil. Tu en transporteras davantage comme ça. Je vais demander à Roland de quoi allumer le feu.
Mais t'occupe, Eddie. Laisse-moi me rendre utile. »
Il fit demi-tour sans ajouter un mot, souleva le fauteuil pour mieux le manœuvrer et se dirigea vers la source de bois de chauffe la plus proche. Comme il passait près de Roland, il lui transmit le message de Susanna. Le pistolero acquiesça et poursuivit sa route sans s'arrêter. Tous trois s'activèrent en silence, ramassant du bois en cet après-midi de chaleur. Dans le ciel, le sentier du rayon était désormais invisible, car tous les nuages se mouvaient à présent, fonçant vers le sud-est. Susanna avait allumé un feu qui rugissait dans la cheminée. Au centre de la grande salle se dressait un monceau de bois d'où émergeaient des planches criblées de clous rouillés. Aucun d'eux ne s'était encore blessé, mais Eddie songea que ce n'était qu'une question de temps. Il se demanda de quand datait son dernier appel antitétanique et ne put s'en souvenir.
« Quant à Roland, se dit-il, son sang tuerait sans doute le premier germe qui pointerait sa gueule dans ce sac de cuir qu'il appelle sa peau. « Pourquoi tu souris comme ça ?»
lui lança Jake. Il était tout essoufflé. Les manches de sa chemise étaient sales et plantées d'échardes. Une traînée de crasse lui maculait le front.
« Pour rien, petit héros. Fais gaffe aux clous rouillés. Un dernier voyage et je crois bien que ça suffira. Cette saleté se rapproche. »«
Ok. »
Les explosions avaient franchi le fleuve et l'atmosphère, quoique toujours chaude, devenait étrangement lourde. Eddie chargea une dernière fois le fauteuil roulant de Susanna et le poussa en direction du hall. Jake et Roland marchaient devant lui. Il sentit une vague de chaleur déferler depuis l'intérieur.
« Si le froid tarde, on risque de rôtir là-dedans. » Puis, alors qu'il attendait que ses deux compagnons se placent de biais afin de faire passer leur chargement par l'embrasure de la porte, un cri insistant se joignit au concert d'explosions et de craquements. Eddie sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. On aurait dit un être vivant en proie à d'atroces souffrances. L'air se remit à frémir. Encore chaud jusque-là, il se rafraîchit jusqu'à sécher la sueur sur son visage, puis devint carrément glacial. Ce fut l'affaire de quelques secondes à peine. Au sinistre chant du vent se joignit une sorte de bruissement qui évoqua à Eddie celui que produisent les fanions en plastique tant aimés des vendeurs de voitures d'occasion. Cela vira bientôt au vrombissement et les feuilles s'arrachèrent à leurs arbres, par escadron puis par bataillon. Les yeux éberlués, il vit les branches convulsées sur fond de nuages de plus en plus noirs.
« Oh merde !»
Il fonça vers la porte. Et pour la première fois depuis qu'il s'activait à transporter du bois, le fauteuil roulant se coinça. Ce coup-ci, il avait embarqué des planches trop grandes. Avec un peu de bonne volonté, elles se seraient cassées en produisant un bruit pitoyable, comme l'anse du seau. Mais elles s'y refusèrent. « Oh non, pas maintenant, la tempête arrivait sur eux. Il n'y avait donc rien de facile dans l'entre-deux-monde ?» Il tendit le bras par-dessus le dossier du fauteuil pour virer les planches les plus longues, et ce fut à ce moment-là que Jake poussa un cri.
« Otey, Otey, toujours dehors, Otey, viens ici !»
Otey fit la sourde oreille. Il avait cessé de tourner sur lui-même. Il était assis au milieu de la rue, la truffe pointée sur la tempête en marche, et ses yeux cerclés d'or semblaient perdus dans un rêve. 14. Jake ne prit pas le temps de réfléchir, pas plus qu'il ne fit attention aux clous qui hérissaient le dernier chargement d'Eddie. Il se contenta de grimper sur le monceau de bois et de sauter. Il heurta Eddie qui vacilla sur ses jambes, perdit l'équilibre et tomba sur le derrière. Jake se reçut en mettant un genou à terre, puis se releva, les yeux fous, ses longs cheveux bouclés agités par le vent.
« Jake, non !»
Eddie voulut l'attraper, mais ne put saisir que le pan de sa chemise. Usé par quantité de lavage à l'eau vive, le tissu se déchira. Roland apparut sur le seuil. D'un revers de main, il se débarrassa des planches trop longues, aussi indifférent aux clous que Jake l'avait été. Puis le pistolero tira le fauteuil roulant vers lui. « Rentre vite !»«
Mais... »
« Soit Jake s'en sortira, soit il y restera. » Agrippant Eddie par le bras, Roland l'aida à se relever. Fouettés par le vent, leurs vieux blue jeans produisaient des crépitements.
« Son sort est entre ses mains, » ajouta le pistolero. « Rentre vite !»«
Non, va te faire foutre !»
Plutôt que de perdre du temps à discuter, Roland attira Eddie à l'intérieur. Il tomba à genoux dans une chaleur suffocante. Susanna le fixait des yeux, installé devant le feu. Son visage était luisant de sueur, sa tunique de daim en était trempée. Debout sur le seuil, le visage grave, Roland regarda Jack courir au secours de son ami. 15. Jake sentit chuter la température de l'air qui l'entourait. Une branche se brisa dans un bruit sec et il baissa la tête, comme elle passait en sifflant au-dessus de lui. Otey ne bougea pas jusqu'à ce qu'il le saisisse. Puis le bafouilleux montra les crocs et ouvrit des yeux égarés.
« Mords-moi si tu veux, » lui dit Jake, « mais je ne te lâcherai pas. »
Otey ne mordit pas, mais s'il l'avait fait,
Jack n'aurait sans doute rien senti. Son visage était engourdi. Il se retourna vers le grand hall et le vent lui fit l'effet d'une gigantesque main glacée plaquée entre ses omoplates. Il se remit à courir, s'apercevant aussitôt qu'il progressait par grands bonds grotesques, comme un astronaute arpentant la lune dans un film de science-fiction. Un bond, deux, trois. Mais à l'issue du troisième, il ne redescendit pas. Il s'envola vers l'avant, ôté serré entre ses bras. On entendit une explosion gutturale, tonitruante, lorsqu'une des vieilles masures, cédant aux assauts du vent, prit son essor vers le sud-est, dans un nuage d'échardes et de gravier. Il vit une volée de marches monter en spirale vers les nuées, sa rambarde encore fixée à elle.
« Ensuite, ce sera notre tour, » se dit-il.
Et c'est alors qu'une main, mutilée mais toujours forte, lui empoigna le bras au-dessus du coude. Roland l'orienta vers la porte. L'espace d'un instant, l'issue demeura incertaine, car le vent, qui gagnait en force et en froidure, les empêchait de gagner leur refuge. Puis Roland plongea dans l'embrasure, ses doigts survivants bien enfoncés dans la chair de Jake. Soudain libérés de la pression du vent, ils s'effondrèrent sur le sol.
« Merci, mon Dieu !»
s'écria Susanna. « Tu le remercieras plus tard. » dit Roland, levant la voix pour se faire entendre en dépit du vacarme. « Allez-vous tous, poussez, poussez cette satanée porte. Susanna, pousse en bas, poussez de toutes vos forces. Quand elle sera fermée, si on arrive à la fermer, Jake, tu mets la bâcle en place, t'as compris? Cale-la bien dans les montants, ne traîne pas. »«
Ne t'en fais pas pour moi, » répliqua Jake.
Quelque chose l'avait frappé à la tempe et un filet de sang coulait sur sa joue, mais son regard était clair, résolu. « Allez-y, poussez, votre vie en dépend !» La porte se referma lentement. Ils n'auraient pas pu la tenir plus longtemps, mais ils n'en eurent pas besoin. Quelques secondes leur suffirent. Jake mit la bâcle en place et, lorsqu'ils s'écartèrent avec un luxe de précaution, ce fut pour constater que les montants rouillés tenaient bon. Tout essoufflés, ils échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Othé, lequel poussa un petit jappement, puis alla se réchauffer devant le feu. Le charme que la tempête avait jeté sur lui était apparemment rompu. Plus on s'éloignait de la cheminée, plus la froidure envahissait la grande salle.
« Tu n'aurais pas dû m'empêcher de sortir, Alain, » dit Eddie. « Jake a failli se faire tuer. »
Othé relève de sa responsabilité. Il aurait dû le faire rentrer plus tôt, l'attacher à quelque chose si nécessaire. « Tu n'es pas d'accord, Jake ?»«
Si, je suis d'accord. »
Jake s'assit à côté d'Othé et caressa d'une main son épaisse fourrure, tandis que de l'autre, il essuyait le sang qui lui recouvrait le visage.
« Roland, » dit Susanna, « ce n'est qu'un enfant. »«
Ce n'est plus un enfant. J'implore ton pardon, mais ce n'est plus un enfant. »
16. Durant les deux premières heures du coup de givre, ils se demandèrent si le hall de pierre allait tenir le coup. Le vent ne cessait de hurler, les arbres se brisaient dans un bruit de canonnade. L'un d'eux tomba sur le toit et le fracassa. Des vrilles d'air froid s'insinuèrent entre les lattes du plafond. Susanna et Eddie s'étreignirent. Jack protégea Othé. Apaisé, il s'était allongé sur le dos, les quatre pattes tendues comme les pointes d'une rose des vents, et observa la nuée tourbillonnante de crottes d'oiseaux qui descendaient sur eux. Sans se démonter, Roland continua de préparer leur petit souper.
Qu'en penses-tu, Roland ?
Demanda Eddie.
« Je pense que si ce bâtiment résiste encore une heure, alors tout ira bien. Le froid va s'intensifier, mais le vent tombera un peu la nuit venue. Et il tombera encore au lever du jour, et à partir d'après-demain, l'air sera calme et bien plus chaud. Pas aussi chaud qu'avant qu'éclate la tempête, mais cette chaleur-là n'avait rien de naturel, comme nous le savons tous. »
Il les regarda avec un petit sourire aux lèvres. Son visage, d'ordinaire grave et un peu figé, en devenait bizarre.
En attendant, nous avons un bon feu, pas assez fort pour réchauffer toute la salle, mais il nous suffit si nous restons près de lui. Et nous pouvons nous reposer un moment. Nous avons traversé bien des épreuves, n'est-ce pas ?
Oui, fit Jack, bien trop d'épreuves.
Et d'autres nous attendent sur notre route. Nous rencontrerons le danger, la fatigue, le chagrin, la mort peut-être. Alors asseyons-nous près du feu comme dans les temps jadis et profitons de ce réconfort qui nous est échu. Il les considéra une nouvelle fois sans cesser de sourire. La lueur du feu découpait son visage d'étrange manière, un côté juvénile et l'autre d'un âge vénérable. Nous sommes un quatête, un seul en plusieurs. Réjouissez-vous d'avoir de la chaleur, un abri et des compagnons face à la tempête. D'autres ont sans doute moins de chance.
Espérons le contraire,
dit Susanna, qui pensait à Bix.
Venez, dit Roland, mangez.
Ils se rapprochèrent, s'installèrent autour de leur dîne et mangèrent ce qu'ils leur avaient préparé.
17.
Susanna dormit une heure ou deux au début de la nuit, mais fut réveillée par ses cauchemars. Pour une raison inconnue, elle était obligée de manger des mets grouillants de verre. Dehors, le vent continuait de hurler, mais d'une façon apparemment moins soutenue. On l'entendait parfois baisser puis remonter de volume, poussant de longs cris glaciaux tandis qu'il courait sous les bardeaux et faisait trembler les murs de pierre de l'antique bâtiment. La porte battait en rythme contre la bâcle qui la tenait fermée, mais à l'instar du plafond au-dessus d'eux, la barre de bois et les montants rouillés refusaient apparemment de céder. Elle se demanda ce qu'ils seraient advenus d'eux si cette bâcle avait été aussi pourrie que l'anse du seau qu'ils avaient trouvé près du goc. Roland était éveillé et assis devant le feu. Jack se trouvait auprès de lui. Entre eux, Othé dormait une patte sur la truffe. Susanna les rejoignit. Le feu avait perdu de son intensité, mais à cette distance, il lui enveloppait le visage et les bras d'une chaleur réconfortante. Elle attrapa une planche, envisagea de la briser en deux, puis, craignant de réveiller Eddie, la jeta telle qu'elle sur le feu. Une gerbe d'étincelles monta dans la cheminée, décrivant une spirale dans son ascension. Ses craintes étaient infondées, car, alors que les dernières étincelles disparaissaient, une main lui caressa la nuque, juste au-dessus de ses cheveux. Elle n'eut pas besoin de se retourner, ce contact lui était on ne peut plus familier. Elle s'empara de cette main, la porta à sa bouche et l'embrassa au creux de la paume. Une paume blanche. Après tout ce temps passé ensemble, après toutes ces étreintes, elle avait encore peine à le croire. Et pourtant, c'était bien vrai.
Au moins, je n'aurais pas besoin de l'amener chez moi pour le présenter à mes parents,
songea-t-elle.
Tu n'arrives pas à dormir, mon amour ?
Pas trop. J'ai fait de drôles de rêves.
C'est le vent qui les apporte, dit Roland. N'importe quel habitant de Gilead te dirait la même chose. Mais j'aime le bruit du vent. Je l'aimerai toujours. Il apaise mon cœur et me fait penser au temps jadis. Il détourna les yeux comme gêné d'en avoir trop dit.
Aucun de nous ne trouve le sommeil, dit Jack. Raconte-nous une histoire.
Roland contempla le feu un moment, puis se tourna vers le jeune homme. Il souriait à nouveau, mais son regard était lointain. Un nœud crépita dans la cheminée. Par-delà les murs de pierre, le vent hurlait sa rage de ne pas pouvoir entrer. Eddie passa un bras autour de la taille de Susanna, qui nicha sa tête contre son épaule.
« Quelle histoire souhaites-tu entendre, Jack, fils d'Elmer ?»«
Celle que tu voudras. »«
Un temps. »«
Une histoire des temps jadis. »
Roland se tourna vers Eddie et Susanna.
« Et vous ? Vous voulez l'entendre ?»«
Oui, s'il te plaît, »
dit Susanna. Eddie acquiesça.
« Ouais,
Si t'en as envie, bien sûr.
Ralland réfléchit. Peut-être vous en compterai-je deux, car l'aube ne viendra pas avant plusieurs heures, et nous pourrons dormir dans la journée si nous le souhaitons. Ces deux histoires sont imbriquées l'une dans l'autre, mais le vent souffle dans l'une comme dans l'autre, ce qui est une bonne chose. Rien de tel que des histoires par une nuit venteuse, quand on a trouvé un abri chaud dans un monde glacial. Il attrapa un morceau de bois, attisa les braises du feu, puis le jeta dans les flammes. La première histoire est une histoire vraie, car je l'ai vécue en compagnie de Jamie Decury, mon ancien Camille. Quant à l'autre, la clé des vents, ma mère me la lisait lorsque j'étais tout petit. Les vieilles histoires sont parfois utiles, vous savez, et j'aurais dû penser à celle-ci dès que j'ai vu Othé renifler l'air. Mais c'est une histoire d'il y a longtemps. Il soupira. Une histoire des jours enfuis. Dans les ténèbres, par-delà leur petit cercle de lumière, le vent poussa un cri suraigu. Roland attendit qu'il s'estompe, puis commença son récit. Eddie, Susanna et Jack l'écoutèrent, captivés, durant toute cette longue nuit de tourmente. Led, l'homme Tic-Tac, Blaine le mono, le palais vert. Tout cela, ils l'oublièrent. Jusqu'à la tour sombre elle-même qui disparut un temps de leur pensée. Il n'y avait plus que la voix de Roland qui se durcissait puis se faisait plus douce par instants. Dure et parfois douce, comme le vent. Peu de temps après la mort de ma mère, laquelle, ainsi que vous le savez, j'ai tué de mes propres mains.